Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre.
La santé, c'est un esprit sain dans un corps sain.
Abra le corps.
Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue donc dans ce deuxième épisode de cette hors-série consacrée à l'actualité. Je suis toujours en compagnie de mon amie Fazika, qui a quand même trouvé quelques moments pour continuer ce travail avec moi malgré le fait qu'elle travaille. Elle travaille donc dans son établissement scolaire, dans son lycée. Donc nous allons parler dans cet épisode beaucoup de la vague islamophobe et de tous les éléments langage, les amalgames, etc. Faits pour la nourrir, l'entretenir, tant de la part du champ médiatique que politique. Bonne écoute.
Si on regarde en arrière, cette vague islamophobe qu'on observe aujourd'hui, en fait, c'est un mécanisme qui revient assez régulièrement dans les différentes crises sociales. À chaque fois, on observe vraiment cette crispation des pouvoirs qui vont renforcer leurs mesures autoritaires et qui entraînent tout un tas de restrictions de liberté. Bon, là, on a vu les restrictions de réunion, de déplacement, etc., avec l'argument du Covid et du confinement. Il y a donc tout le vocabulaire et tout l'imaginaire de la guerre qui est mobilisé dans ce genre de crise. Donc la guerre contre le Covid, mais aussi la guerre contre les séparatismes, qui est là encore utilisée de façon assez vide, assez floue par rapport à sa définition initiale. Donc c'est vraiment une manière de rendre le virus comme le terrorisme, comme les ennemis hein, de la nation, et de mettre en place dans l'imaginaire collectif cette vision hyper manichéenne de deux armées qui s'affronteraient, un peu du bien et du mal, qui est genre vraiment un mythe simplificateur, qui est un peu la recette de nombreuses politiques historiquement, dès qu'il y a du coup des moments de crise comme ça, permet de ne pas aller au fond des sources et des causes des problèmes sociaux pour enlever toute complexité, tout ce qui est de l'ordre de l'historique, du structurel, etc. Et donc l'écrivaine et sociologue Kaoutar Archi, qui vient de publier Le racisme en France et qui était interviewée avec la députée de la France insoumise Danielle Obono ainsi que la militante syndicale antiraciste Verven Angeli sur Radio Parleur le 29 octobre dernier. C'était donc toutes les trois présentes interviewées au sujet de la vague islamophobe qui secoue donc la France depuis le meurtre du professeur Samuel Paty, qui avait donc montré des caricatures de Charlie Hebdo avec des caricatures de Mahomet, et donc qui a été décapité de manière très très violente. Donc depuis, on observe une vague islamophobe animée à la fois par le champ politique et journalistique mainstream, avec des propos qui jusque-là étaient un peu l'apanage de l'extrême droite et qui maintenant... sont vraiment ouvertement scandés par ces différentes figures. Et c'est ce que analysaient justement ces trois invités dans l'émission de Radio Parleur, un peu cette banalisation de ces propos-là, et avec le fait que même à gauche, enfin généralement il y avait quand même une levée de bouclier, une critique dans les partis de gauche, et là il y a comme un état de sidération et il y a eu très peu de condamnation en fait de tous ces propos islamophobes. Et donc ces trois intervenantes revenaient sur la gravité des propos tenus par notamment Emmanuel Macron et Gérard Darmanin, le ministère de l'Intérieur, avec des expressions telles que « ennemi de l'intérieur ». Et Kaoutar Archi soulignait donc le silence face à ces expressions. Et elle recourait à un concept théorisé par Naomi Klein de stratégie du choc, qui était dans un essai que cette chercheuse avait publié en 2007. Et il y a d'ailleurs un très bon documentaire disponible sur YouTube, que j'invite tous les auditeurs à aller voir, et qui montrait comment les tenants du capitalisme, notamment néolibéral, avait profité à la fin du XXe siècle, au nom des années 70-80, de l'état de sidération psychologique de la plupart des opinions publiques, provoquées par les crises à la fois climatiques, sociales, politiques, économiques, etc., pour mettre en place leur réforme économique ultralibérale. Et alors cette grille de lecture de la stratégie du choc, on peut l'appliquer ici, à la suite de Kaoutar Archi, à la fois pour vraiment cette mise en place de nouvelles politiques néolibérales dans le cadre du Covid et du confinement, puisqu'on le voit...
Une poursuite, moi je dirais.
Oui. Oui, parce que c'est vrai que c'était déjà en place. Mm-hmm. Mais en gros, suite à ce contexte de crispation autour du Covid, etc., par exemple, Macron va ouvrir la voie à une réforme du Code du travail, à donner encore davantage de pouvoir aux employeurs.
Au patronat, oui.
Et donc du coup, c'est une façon de pouvoir renforcer ces mesures-là. Et de même, outre le renforcement des politiques ultralibérales, on peut aussi appliquer cette analyse de la stratégie du choc pour montrer qu'en jouant sur l'état de sidération à la fois dû à la peur du Covid, mais aussi à la peur des attentats et du terrorisme, il va jouer là-dessus pour articuler de nouvelles politiques islamophobes. C'est un peu plus infusé aussi cet état de suspicion. Elle parle, Kaoutar Archid, d'une fenêtre d'opportunité ouverte au gouvernement, donc qui renforce leur discours et leurs mesures autoritaires. Et elle montre bien que toutes ces mesures autoritaires, elles s'inscrivent donc dans une continuité, quelque chose qui a été déjà ouvert par toutes les mesures répressives sur le plan policier depuis ces dernières années, depuis la répression des différentes mobilisations sociales et dernièrement des Gilets jaunes. Avant ça, ouverte déjà aussi par les premiers attentats, les attentats de Charlie Hebdo puis les attentats de 2015, qui avaient conduit à une constitutionnalisation d'une partie de l'état d'urgence et qui permettent à une partie de l'exécutif de passer outre le judiciaire avec des arrestations préventives, etc., etc. Et donc là, on voit bien, en fait, c'est pour ça que c'était très grave cette constitutionnalisation de l'état d'urgence. C'est-à-dire que les états d'urgence, comme l'état d'urgence sanitaire dans lequel on se trouve actuellement, donnent déjà ce qu'on appelle des droits exorbitants de droit commun, c'est-à-dire ils donnent plus de priorité, plus de pouvoir encore à l'exécutif, alors que normalement, on est censé, dans la démocratie républicaine, avoir un équilibre entre l'exécutif, donc le gouvernement, etc., le législatif qui fait les lois et le judiciaire. Et là, c'est l'exécutif qui a le plus de pouvoir et qui a encore plus de pouvoir constitutionnalisé donc depuis 2015. Et là, on est dans un état d'urgence sanitaire et on voit bien qu'à chaque fois, il y a de plus en plus de décrets. Et en fait, la plupart des mesures qui viennent structurer nos vies et les restreindre et les réglementer aujourd'hui sont des mesures qui n'ont pas été votées. Et il y a beaucoup moins de contrôle du juge judiciaire aussi. Et c'est des choses qui viennent de l'exécutif directement.
Et même la loi Avia, donc, qui permettait justement une focalisation sur des propos haineux sur Internet, il y a eu un refus de l'application de cette loi Avia. Et le gouvernement a décidé de l'envoyer directement à Bruxelles, donc aux Commission européenne. Donc pour avoir une facilité de l'adoption de cette loi.
Oui, exactement. Enfin, ça, c'est une autre stratégie encore que de passer par l'état d'urgence ou quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, comme tu disais, c'était réprimé par le Conseil constitutionnel. Et alors, en fait, il n'a pas proposé la loi Avia comme en tant que telle, mais c'est sensiblement les mêmes mesures. Permettait justement de sanctionner, de censurer des contenus sans qu'il y ait d'abord une enquête et un procès, etc. Donc on passe encore outre le judiciaire. Et là, c'est une façon, en fait, vu qu'il y a un projet européen de traiter de ce sujet, de contrôle des contenus haineux sur Internet, il repropose ça à Bruxelles, en fait, en misant sur le fait qu'il y a un flou en France sur la hiérarchie des normes, c'est-à-dire que c'est pas... Ça dépend de la jurisprudence, mais c'est pas clairement admis si c'est le droit européen qui prime sur le droit national ou l'inverse. Et du coup, c'est un peu une manière de jouer sur ce flou-là, dans le sens où, même si le Conseil constitutionnel a rejeté l'ensemble de ces mesures, si elles passaient par le droit européen...
À ce moment-là, on est OK, ouais.
Et ce qui est d'ailleurs aussi très alarmant, c'est l'appel du directeur de rédaction de L'Express et aussi éditeur sur BFM TV, qui appelait justement, du fait qu'il y avait des contenus haineux, qui avaient été laissés passer par l'ONG Baraka Site sur ses réseaux sociaux, qui a été dissoute d'ailleurs pour ça... par le ministre de l'Intérieur juste après, qu'il fallait absolument faire passer cette loi Avia, quitte à réformer la Constitution, puisque le Conseil constitutionnel l'avait
rejeté.
Donc là, on appelle carrément à changer, alors que le Conseil constitutionnel, c'est un des derniers encore gardiens qui nous permet d'être fidèles aux valeurs, aux droits, à l'égalité, à l'équilibre des pouvoirs, etc. Donc là, c'est très, très alarmant, tous ces appels. Et on voit bien que la censure, elle peut se faire sur plein de plans et pas juste de façon hyper verticale. Enfin, il y a plein de moyens de venir articuler et régler et limiter la liberté d'expression conformément qui arrange le gouvernement. Et oui, par rapport à ces contenus haineux, c'était notamment par rapport aux contenus dits préjudiciables non illicites ou des contenus pornographiques et des contenus de désinformation. Donc c'était présenté tel quel dans la loi et représenté tel quel à Bruxelles, à la Commission européenne. Mais quand on voit les contenus pornographiques, on se doute bien que ça va pas être le porno mainstream qui va être censuré. Ça va être encore des pornos indépendants ou de certaines minorités.
Éthique. Ouais.
Certaines choses. Quand on voit que c'était déjà tout ce qui a trait aux pratiques, par exemple lesbiennes, etc., qui est bien plus censuré ou lié à des choses plus de l'ordre de l'exhibition des corps, mais par exemple de personnes assignée au genre féminin pour elle-même et par elle-même dans un truc militant. Il y a des censures qui se font automatiquement sur Instagram, sur plein de, tout un tas de réseaux, alors qu'il y a tout un tas de contenus haineux qui circulent sans problème. Donc on voit bien quel genre de contenu peut être qualifié de pornographique, que c'est pas du tout objectif. De même que la désinformation, alors qu'on est dans une guerre perpétuelle de fake news, de communication, etc., et où tout le monde crie à la diffamation, il y a quand même des dominants qui ont, dans le champ journalistique et politique, la main mise là-dessus pour qualifier quel contenu va être ou pas de l'information. Enfin, quand on sait comment se font ces législations européennes, donc c'est à la Commission européenne, il y a plusieurs commissions qui se réunissent et qui sont où siègent des lobbies, enfin plein de groupes qui vont venir défendre les différents intérêts. Et du coup, les entreprises qui ont des intérêts direct en fait là-dedans et qui vont chercher bah, bien sûr à protéger leurs intérêts et à faire qualifier de haineux ou de désinformation etc. Les personnes qui s'y opposent à elles quoi. Et c'est incroyable encore d'utiliser des mots aussi larges, aussi flous que désinformation ou voilà et de pas qualifier ce que c'est les contenus haineux. Quand, et à côté de ça on veut passer cette loi sur ces plateformes, mais on laisse les gens de la Manif pour tous déverser leur haine dans les rues, sur les comptes divers, les contenus racistes, etc., sont beaucoup moins censurés, alors qu'en fait, et sexistes aussi, alors qu'ils causent, dans les faits, bien plus de morts que les attentats. Enfin, les féminicides, je sais même plus à combien on en est actuellement, mais de même, les personnes des communautés LGBT qui sont victimes de transphobie, d'homophobie, etc., tuées ou qui se tuent elles-mêmes de suite à cette vague de haine qui est largement non censurée justement. Et donc enfin moi ça me choque vraiment cette double grille de lecture quoi. Du coup, par rapport donc à cette
stratégie du choc.
Ouais. Mmh. Monique Passot-Charlot, qui est une sociologue très connue, qui a beaucoup travaillé sur les classes supérieures sociales, économiques en France, parle elle aussi de stratégie du choc. Elle parlait vraiment de guerre des classes dont le coronavirus ne serait qu'un champ de bataille. On peut faire le lien là avec le concept de nécropolitique, donc de gestion des morts. Aux États-Unis, la volonté de supprimer l'Obamacare alors même que les personnes précarisées sont les premières victimes. Tout ça se fait donc sur fond d'un projet de loi de lutte contre les idées séparatistes préparé par l'administration d'Emmanuel Macron, visant à faire de plus en plus de pression sur les musulmans et les communautés et les associations musulmanes dans le pays. Donc il y a 51 associations, je crois que c'était d'après un article de Libération, qui seraient dans le collimateur du gouvernement, avec une restriction des financements et en tout cas un contrôle plus étroit, du financement aussi des mosquées et la volonté d'empêcher l'arrivée de responsables religieux de l'étranger en France. Le gouvernement cherche aussi à purger la direction de l'Observatoire de la laïcité qui n'a pourtant rien à voir dans l'attentat de Samuel Paty, qui est une commission consultative qui a été créée en France en 2007 justement dans le cadre de toutes ces polémiques qu'il y avait sur la laïcité à ce moment-là et l'instrumentalisation islamophobe de la laïcité. Donc c'est très très inquiétant. Et en même temps, on a des déclarations d'un ministre de l'Intérieur qui se dit gêné par des rayons halal dans les supermarchés, glorifie que 358 lieux musulmans, dont des mosquées, aient pu être fermés en France au cours de ces trois dernières années, et que 428 étrangers aient été expulsés. Et plus largement, donc il y a un véritable procès médiatique et politique qui est fait à l'ensemble des organisations musulmanes. Et l'ONG, donc comme je disais tout à l'heure, Baraka City, qui est une association musulmane qui vient en aide aux populations musulmanes démunies dans le monde, a été donc dissoute. Donc il ne s'agit pas d'avoir forcément un avis pour ou contre. Ça, je pense qu'effectivement, elle a, en tant que plateforme, il y a une responsabilité à avoir sur les contenus qui sont diffusés sur sa plateforme. Il y a aussi une responsabilité des réseaux sociaux. Et dans tous les cas, il y a un procès qui doit être fait. Le gouvernement a aussi dissous le collectif pro-palestinien Cheikh Yassin suite à une vidéo donc publiée sur YouTube par son créateur qui qualifiait Samuel Paty de voyou. Donc bon, là aussi, vraiment problématique. Mais bon, après, de là, dissoudre toute une association qui a quand même des fins, je sais pas, c'est discutable. Là aussi, il faut un procès, etc. Toujours est-il que cette vague de répression et de stigmatisation de la communauté musulmane dissimule mal une tentative de véritablement... en fait, gérer et réglementer les corps musulmans. Et elle s'inscrit dans la suite d'instrumentalisation de la laïcité qui sont en vogue depuis 2004. Donc 2004 avec l'interdiction des signes religieux ostensibles. Donc on est passé de l'ostentatoire, donc d'une guerre contre le prosélytisme, à l'ostensible, c'est-à-dire à juste toute apparition, toute vision des signes religieux, alors même qu'à la base, La laïcité telle qu'elle a été mise en place par la loi de 1901 de séparation de l'Église et de l'État, c'était l'État ne prend pas part aux religions, elles sont toutes à égalité et elles sont, peuvent toutes s'exprimer. Et maintenant, c'est devenu, depuis ce tournant de 2004, on ne veut plus voir aucune religion et forcément, c'était directement pour cibler la religion musulmane et donc le voile des personnes de genre féminin musulmane. Donc interdit dans la plupart des écoles. Et depuis, il y a une des vagues islamophobes. Et le chercheur Abdelali Ajat a qualifié de concept de néo-laïcité. Et je crois que tu avais aussi une source intéressante.
Concernant justement toutes ces questions en lien avec la laïcité, sur France Culture, il y a eu un épisode qui était intitulé « Liberté d'expression et liberté pédagogique ». Et une philosophe qui est spécialisée de la spiritualité et de la philosophie islamique, nommée Souad Ayada, elle intervient justement sur les notions de liberté républicaine et donc de cette fameuse notion de laïcité. Pour elle, c'est du coup un enjeu psychosocial qui est du coup étayé aussi par la Tribune du Monde écrite par le sociologue Jean Bobéraud. Elle va carrément qualifier au final la laïcité comme une neutralisation du religieux comme tel, qui a pour fin le recul de sa visibilité et sa sortie hors de la sphère publique, une intériorisation intégrale des manifestations de la foi, qui a pour fin sa spiritualité. Donc ça permet vraiment de clarifier davantage les définitions de la laïcité et essayer de mettre de côté peut-être tous ces enjeux qui sont du coup contraire forme de souhait d'être totalement neutre et faire du coup une réflexion totalement islamophobe qui en plus pas du tout cachée. Et c'est très important justement d'avoir ces notions en tête quand nous sommes confrontés justement à un public jeune dans du coup les écoles, les collèges et les lycées et puis par la suite dans nos vies de tous les jours. Afin de pas nourrir ces réflexions et de pas non plus prendre comme acquis tout ce qu'on entend au niveau médiatique.
Cette PME croule sous les charges sociales. Racaille. Radar, on paye, péage, on paye, pollution, on paye. Oh. Qu'est-ce que vous faites avec tout ce fric? Que foutait Eric Zemmour sur une chaîne publique? Racaille. Payé pour propager sa haine, semer des graines récoltées par le FN. Pour vous-même, Marine Le Pen est devenue fréquentable. Quiconque combat l'islam peut s'asseoir à votre table. Incapable de gouverner, vous divisez. Incapable de rassembler, vous stigmatisez. Aveuglé par le pouvoir, vos cœurs sont voilés. Beaucoup plus que le visage de cette femme voilée. Tous vos prétendus principes de laïcité ne concernent pas cette Saoudienne sur les Champs-Élysées. Pour vous tous, négocie, tout est question de genre. Vous êtes même prêts à livrer les banlieues au Qatar. Votre jeu est trouble. Votre discours est double. Vous payez dit des droits de l'homme. L'état d'urgence est devenu la norme. Et vous prétendez faire la leçon au monde entier. Imposer la démocratie à coups de mortier. Sans pitié, vous avez buté Kadhafi. Aujourd'hui, dans quel état se retrouve la Libye? La roue le sait, je le mets en musique. Vos médias le taisent, je le rends public. Je vous tiens tête comme un mec des minguettes. Est-ce le genre de texte qui peut me valoir une fiche S?
Donc on voit bien que l'attentat de Samuel Paty a été instrumentalisé. Il n'y a même pas eu de moment vraiment de commémoration, etc. Pour rendre hommage à la personne en tant que telle, au professeur, direct, il y a eu des appels à la vengeance. Enfin, la vengeance, qu'est-ce qu'elle a à voir avec ce que les personnes qui pensent encore qu'on vit dans un état de droit appellent l'état de droit?
Justement, en parlant d'instrumentaliser, elle l'a été de par le gouvernement et donc le ministre de l'Éducation, en invitant les établissements à lire la lettre de Jean Jaurès, donc sur les questions en lien avec l'autonomie de l'enseignement, qui a été lue justement lundi, donc le 2 novembre, en exprimant justement l'importance de l'enseignement libre et en fait, quand on se focus sur la lettre transmise aux établissements, il y a eu des modifications. Donc en soi, est-ce qu'on peut vraiment introduire le fait que les écoles sont libres et sont aptes à pouvoir justement transmettre des informations essentielles à la construction et au développement des jeunes adultes et d'adultes quand c'est caché par des transformations de mots influençant justement forme d'autorité et donc d'impossibilité de se détacher justement de ces valeurs républicaines parce que on n'a pas justement cette liberté de choix Et donc, en parlant des mots rectifiés, en tout cas, il y en a surtout un, c'est à la place de fierté, les professeurs ont dû lire fermeté. Donc, en soi, c'est très implicite, mais ça montre à quel point, justement, tout dérapage doit être sanctionné, limite. C'est vraiment ce que je peux percevoir de cette modification et donc le côté très autoritaire du gouvernement et donc des ministres de l'Éducation.
Et il y a eu tout le passage aussi tronqué. Ouais. Qui était un passage qui revenait sur le fait qu'il n'était pas nécessaire pour le bon apprentissage, justement, qu'il va mieux éviter plutôt de mettre les élèves en constante évaluation. Et comme par hasard, c'est ce passage qui est tronqué, alors même que c'était ce que dénonçaient la plupart des mouvements des professeurs l'année dernière suite aux différentes réformes des lycées, puisque ces réformes de Blanquer mettent justement les élèves en évaluation constante et en compétition, etc. Et comme par hasard, c'est ce passage qui est enlevé et on voit bien l'instrument qui est fait justement de ces disant valeurs républicaines, de ces figures républicaines, puisque Jaurès est une figure qui a vraiment été très importante pour cette Troisième République, mais qui, d'ailleurs, il faut le rappeler, avait une vision très, très ouverte et pacifique justement de la laïcité, qui était pour vraiment l'expression et le fait que chaque religion puisse se gérer selon ses propres règles, etc. Et donc là, on instrumentalise totalement sa figure et son discours pour faire passer sous l'apparence de républicain quelque chose de très répressif, liberticide, ferme. Convient de rappeler que suite à toutes ces vagues d'islamophobie, la Commission contre l'islamophobie en France, donc le CCIF, qui a été vraiment bien visé par le gouvernement qui voulait essayer de le dissoudre, etc., a saisi le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour dénoncer donc les mesures islamophobes du gouvernement de Macron. Et après, non seulement les tenants, un peu les dominants de ce champ journalistique et politique s'en prennent à l'islam en général, toutes ces organisations, mais aussi dans sa culture, puisqu'on s'en prend aussi même au halal, etc., avec Darmanin, et aussi à ses alliés, enfin ceux qui sont perçus comme les alliés de l'islam, c'est-à-dire des mouvements de gauche. Et c'est pour ça que Blanquer s'est exprimé à ce titre contre l'islamo-gauchisme qui aurait envahi les universités. Et de la même façon, l'essayiste Pascal Bruckner, qui s'en est directement pris à la journaliste antiraciste Rokhaya Diallo, en l'accusant d'avoir armé le bras des tueurs de Charlie Hebdo, parce qu'elle avait usé, comme elle le dit elle-même, de sa liberté d'expression en 2011, quand il y avait eu un cocktail Molotov qui avait été lancé à la rédaction bien avant les attentats, suite encore à une caricature de Mahomet, etc. Et Rokhaya Diallo, comme d'autres journalistes, avait critiqué en fait ces caricatures du journal Charlie Hebdo, le côté un peu islamophobe, etc. Mais c'était bien avant les attentats qui ont eu lieu donc 4 ans après. Mais Pascal Bruckner liait directement la signature de cette lettre ouverte en 2011 aux attentats de 2014 en accusant, oui, la journaliste d'y avoir un rôle, quoi. Et il lui dit ça juste après l'avoir rappelé que c'était une femme noire, musulmane, et en l'accusant d'avoir à ce titre des privilèges, donc c'est le monde à l'envers, qui lui permettrait de dire des choses que lui n'aurait pas pu dire, et il l'accuse d'entretenir, d'alimenter une haine des Blancs. Et donc là, on voit bien qu'on atteint genre toujours ce point un peu crucial de réappropriation d'un discours qui est de plus en plus entendu.
Non, mais en soi, c'est très ironique. Je ne sais plus du coup si j'avais mentionné le fait que je suis une femme racisée, mais ce genre de propos qui naissent tout de suite après justement des revendications qui sont véridiques, dans le sens où des personnes racisées, oui, vivent le racisme systémique, vivent les oppressions en lien avec ce racisme systémique. Tout de suite, une forme de position de par certaines personnes blanches qui se sentent totalement démunies ou déstabilisé par ce franc-parler et le fait justement de clarifier et de nommer les choses qui existent, donc déstabilise et entraîne une inversion des rôles. Et donc cette inversion des rôles est est un peu nourrie par ce renouveau, le pour certaines personnes justement, ce fameux racisme anti-blanc existe, et donc au final ça pointe encore davantage, elles ne se rendent pas compte des privilèges.
Oui, à ce titre, on invite tous les auditeurs à écouter le dernier podcast Kif Taras, où il y a l'un des et Sylvie Laurent qui vient juste de publier un livre qui s'appelle « Pauvre petit blanc, le mythe de la dépossession raciale ». Et donc ça permet un peu de comprendre justement d'où vient un peu cette idée du racisme anti-blanc qui en France, donc, comme le dit Sylvie Laurent, est apparu vraiment à l'initiative des médias tels que Valeurs Actuelles à l'extrême droite, mais aussi d'autres médias de gauche comme même Marianne, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est toujours dans les moments où il y a le plus de tensions et où il y a des mouvements antiracistes qui dénoncent le racisme systémique, directement il y a un backlash avec la réinversion des rôles, comme tu disais, puisque ce terme donc, est apparu notamment en France en 2005, au moment justement des manifestations politiques antiracistes, de la tension dans les banlieues, et où c'est notamment tout un tas de journalistes, etc., parlaient d'une guerre des yeux, de blancs qui devraient baisser les yeux quand ils vont dans certains quartiers populaires. Et voilà, ils appelaient ça du racisme anti-blanc. Et tout en alimentant aussi la thèse du grand remplacement, donc qui est toujours cette idée que les immigrés ou les personnes racisées ou vont venir piquer le travail, la place, etc., des blancs précaires. Et donc, Sylvie Laurent montre comment cette mythologie, elle a été instituée par les pouvoirs aux États-Unis pour diviser pour mieux régner, diviser les précaires du reste des autres communautés précaires mais racisées, en disant que c'était des personnes qui, si elles bénéficient dans les années 60 de la discrimination positive, elles allaient prendre toutes les places, puis qu'elles allaient prendre travail, etc., etc., et bénéficier des aides sociales, alors les autres blancs plus pauvres, eux, seraient les vrais travailleurs, etc. Et donc, il y a toute cette mythologie qui s'était mise en place aux États-Unis et qu'on retrouve aussi en France.
Et de la méritocratie, dans un sens où personnes ont fourni tellement d'efforts, sont arrivées à un certain stade de reconnaissance de par la société et donc le fait d'avoir un certain salaire. Tout de suite, il y a le discours de vous voyez, vous êtes arrivés à ce stade-là, faut pas laisser du coup les minorités prendre votre place et du coup faire en sorte de les ostraciser et de créer une plus grande scission afin de pas les laisser venir trop justement dans ces sphères de travail.
Oui, et de pas permettre en fait une alliance aussi qui pourrait viser à se retourner contre les employeurs, contre le pouvoir, etc. Et donc c'était notamment donc ce qu'on appelait les white ethnic, c'est-à-dire les blancs qui venaient des pays européens comme les Italiens, etc., et qui se retrouvaient très précaires, etc. Et elle explique qu'en France, on voit aussi ce chiffre du racisme qui va ouvrir la voie ensuite à l'idée fantasmagorique du racisme anti-blanc à partir des années 60, avec tenant de la nouvelle droite, comme le groupe GRES, le groupement de recherche et d'études pour la civilisation européenne. Donc c'est un groupement d'extrême droite en fait qui envahit les universités et qui va récupérer le terme de Black Power issu des États-Unis, des mouvements antiracistes aux États-Unis, pour parler de White Power, en revendiquant soi-disant une reconnaissance d'une spécificité blanche, donc en réaction aux reconnaissances qui étaient en train d'émerger des cultures des minorités, et ce qui se retrouve aujourd'hui avec le refus de reconnaître tout ce qui a été commis pendant la colonisation, comme si ça faisait quand même partie de notre culture, et de refuser de changer les noms des rues, de déboulonner les statues, parce que ce serait la culture blanche, etc. Et c'est souvent les mêmes personnes qui vont nous dire après qu'on ne peut plus rien dire, alors même qu'elles ont tout l'espace médiatique, politique, etc., pour justement toujours se révolter contre ce soi-disant racisme anti-blanc.
Lettre à la République, à tous ces racistes à la tolérance hypocrite qui ont bâti leur nation sur le sang. Maintenant ces riches ont d'honneur de leçons. Pilleurs de richesses, tueurs d'Africains, colonisateurs, tortionnaires d'Algériens. Ce passé colonial, c'est le vôtre. C'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Et maintenant, vous devez assumer, l'odeur du sang vous poursuit même si vous vous parfumez. Nous, les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard. Tout arrivé à son départ. Vous avez souhaité l'immigration, grâce à elle, vous vous êtes gavé jusqu'à l'indigestion. Je crois que la France n'a jamais fait la charité. Les immigrés, ce n'est que la main-d'œuvre bon marché. Gardez pour vous votre illusion républicaine de la douce France bafouée par l'immigration africaine. Demandez aux tirailleurs sénégalais et aux harkis qui a profité de qui. La République n'est innocente que dans vos songes.
Et vous n'avez les mains blanches que dans vos mensonges. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard. Tout arrivé à son départ. Mais pensiez-vous qu'avec le temps, les négros mutrés finiraient par devenir blancs? Mais la nature humaine a balayé vos projets. On ne s'intègre pas dans le rejet. On ne s'intègre pas dans les ghettos français parqués entre immigrés, faut être censé. Comment pointer du doigt le repli communautaire que vous avez initié depuis les bidonvilles de Nanterre?
Donc de même, dans cette stratégie de renverser les rôles, Blanquer part en croisade, on l'a vu, contre l'islamo-gauchisme qui aurait envahi donc le champ universitaire, notamment de l'histoire, la sociologie, etc. En s'en prenant à ce mouvement qui est un peu flou que serait l'islamo-gauchisme, il s'en prend en fait à une partie militante de la gauche antiraciste. En tout cas, c'est de là que vient le terme. Et il utilise par là de vieux ressorts historiques qui remontent au maccartisme avec la désignation d'un péril rouge. Donc à l'époque, c'était le communisme, en incitant à craindre donc ses opposants communistes et les formes dites d'extrême gauche. Les anarchistes aussi ont été longtemps stigmatisés et désignés comme des terroristes, associés à une forme d'ennemi intérieur eux aussi, ou alliés à un ennemi intérieur, comme la communauté musulmane ici. Dans une émission de France Culture, le professeur de théorie politique de l'Université libre de Bruxelles, Jean-Yves Pancher, co-auteur avec Justine Lacroix de « Les droits de l'homme rend-il idiot », était interviewé par Guillaume Herner dans « Question du jour » pour revenir justement sur cette histoire et cette signification de l'islamo-gauchisme. Et il expliquait que c'était un terme qui est apparu en 2002 à l'initiative du philosophe Pierre-André Taguieff pour dépeindre une alliance entre des militants d'extrême gauche et des acteurs islamistes au sens très large. Donc ça avait un sens d'abord descriptif, c'est après que ça a été repris dans un sens péjoratif par les opposants, notamment l'extrême droite. Et vraiment, tout début, ça désignait ces mouvements de gauche anti-impérialistes et anti-capitalistes qui se retrouvaient avec d'autres mouvements d'islam politique sous la bannière anti-sioniste, c'est-à-dire contre les politiques d'occupation israélienne. Et puis en 2010, donc le terme est investi par la droite et l'extrême droite et il trouve écho au terme de judéo-bolchevisme qui existait déjà pour désigner non plus les gauchistes anticapitalistes et impérialistes, mais toute personne de gauche, soi-disant trop indulgente avec l'islam radical. Donc il y a vraiment une logique ici de jouer sur la confusion et la stigmatisation et de disqualifier et de renier en fait tout contenu politique. Elle désignait même parfois des personnalités défenseuses des droits humains. Donc le but, c'était vraiment de mettre tout le monde dans le même sac. Alors il y a eu quelques renversements et réappropriations de ce stigmate par des militants justement d'extrême gauche qui se revendiquaient d'un islamo-gauchisme. Comme le souligne dans un article du Bondi Blog du 28 octobre 2020 le sociologue au CNRS Marwan Mohamed, co-auteur du livre « Islamophobie, comment les élites françaises fabriquent le problème musulman » qui est sorti en 2013 et plus récemment du livre « Communautarisme » sorti en 2018. Donc là, je cite « Les différentes forces idéologiques conservatrices sont parvenues à rendre hégémonique l'idée qu'il existerait un continuum, une chaîne de complicité et de responsabilité liant la violence terroriste commise au nom de l'islam avec des mouvements et figures intellectuelles critiques des organisations de gauche, des collectifs antiracistes ou des associations musulmanes autonomes, de même que des personnages ou des organismes publics ne partageant pas leur ligne réactionnaire et répressive, tels que le rapporteur social de l'Observatoire de la laïcité, Nicolas Cadenne. Cette analyse, elle rejoint celle du sociologue et essayiste Mathieu Rigouste, qui est spécialiste notamment des violences policières. C'est un chercheur indépendant en sciences sociales qui a publié dernièrement « Un seul héros, le peuple » aux éditions Premier Matin de novembre, qui avait déjà publié en 2012 « La domination policière, une violence industrielle » qu'on peut trouver aux éditions La Fabrique. Donc là, je cite une nouvelle fois « Lorsqu'un système de domination entre en crise, il a tendance à piocher dans des répertoires qui ciblent d'un côté les révolutionnaires et de l'autre les, entre guillemets, impurs. Il désigne un ennemi intérieur à deux faces, quelque chose comme une alliance entre l'étranger et le subversif, qu'il s'agirait de purger pour rétablir l'ordre social. » Et là, on retrouve vraiment la stratégie actuelle de l'État, qui est donc de définir des impurs que seraient les communautés musulmanes, et son allié stratégique, qui serait une sorte de force révolutionnaire, qui serait ici donc des militants de gauche et qui notamment revendiquent certaines études dans le champ universitaire qui justement visent à déconstruire les oppressions systémiques.
Et donc, ce qui fera lien avec, on en parlera tout à l'heure, les lois de réforme des universités qui vont dans le sens d'une restriction de tous ces champs de recherche en sciences sociales. Le gouvernement, en plus, agit sur plein de plans. Donc, il y a ce discours de discrédit, de stigmatisation qui est fortement relié par les médias dominants. Et là, Mathieu Rigouste, il fait aussi le lien avec une stratégie contre-insurrectionnelle. Il avait étudié à ce titre les politiques mises en place lors de la guerre d'Algérie et qui étaient exactement de ce même ressort où le FLN était vraiment associé dans les discours aux communistes. Et donc on leur faisait la guerre à l'intérieur par ça. Il y avait une grosse campagne de discrédit vis-à-vis et des communistes et des indépendantistes. Et il montrait bien l'impact dans ce genre de doctrine des médias dominants qui relayent ce discours-là. Donc c'est très difficile à contrecarrer. Et puis en plus de ça, il y a d'autres stratégies pour venir détruire à la source les formes d'auto-organisation, de solidarité entre les différents groupes minoritaires. Mais pourtant, on voit dans n'importe quel contexte répressif et n'importe quel moment de crise, même au plus dur, ces solidarités, elles sont tout le temps là finalement. Elles se réinventent constamment. Et c'est ce qu'on a vu lors du dernier confinement. Elles ont été très peu documentées par les médias, mais il y avait beaucoup de solidarité et d'actions qui se sont faites entre les personnes au sein des quartiers populaires, des centres de rétention, des prisons, des foyers de travailleurs immigrés, donc des endroits a priori les plus vulnérables justement. Et une autre stratégie, ça consiste aussi à précariser encore davantage ces mêmes groupes de minorités, puisque ce sont souvent des groupes, que ce soit à la fois les communautés religieuses musulmanes ou ces groupes de militants, qui sont souvent plus vulnérables économiquement parlant. Et donc là, par exemple, dernièrement, dans le cadre des discussions autour de la loi LPPR, donc de programmation de la recherche, il y a un nouvel amendement qui vient d'être proposé par des groupes de parlementaires pour mettre en place une amende et des peines de prison pour des blocages de fac qui pourraient avoir lieu, donc en faisant directement référence au blocus qui a pu avoir ces dernières années, notamment l'année dernière, pendant les mobilisations contre les réformes de retraite, les réformes du lycée, etc. Et donc c'est vraiment très grave, toujours dans ce même courant de plus en plus autoritaire et de restriction des libertés, puisque ça consiste à des amendes de 7 500 euros, c'est ça, et voire accompagné d'un an de prison, et de 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende si cet acte est commis en réunion, ce qui est généralement le cas, puisqu'on va rarement bloquer une fac tout seul. Et du coup, là, c'est pour aller encore plus loin dans les restrictions des rassemblements, des possibilités de réunion et d'exprimer tout simplement un désaccord avec des politiques menées par l'exécutif. Pour en revenir à la désignation de l'ennemi intérieur en tant que tel, pour bien montrer que c'est une hypocrisie, Mathieu Rigouste rappelle qu'il y a une grosse incohérence entre cette politique intérieure de la chasse aux sorcières, c'est-à-dire de la chasse aux communautés musulmanes, et la politique extérieure de l'État français, qui est soi-disant donc en guerre contre l'islam radical, mais continue pourtant à rester l'un des principaux partenaires économiques et militaires de l'Arabie saoudite et des autres pétromonarchies, des pays qui pourtant financent et arment directement ces mêmes groupes dits islamistes. Et donc là, il montre bien que cette dissociation entre les politiques intérieures et extérieures, c'est aussi quelque chose qu'on retrouvait lors des doctrines et des politiques contre-insurrectionnelles en Algérie, et avant ça au Vietnam, etc., menées par l'État français dans les décennies passées.
Ces serpents qui sifflent sur vos têtes, faut-il vraiment choisir un camp entre Youssef et Joseph, tout vainqueur, insolent, à sa perte travail, prenez garde d'être modeste après le gain d'une bataille, car parfois le futur, au passé joue des tours, nos actuelles préfectures sont nos anciennes commandantours, on y soit la guerre et les teubés qui la pratiquent, on voit jamais qu'on tue des frères quand on joue à Battlefield 8, on fait la fête, on redécore pour des causes vite oubliées, mais rappelez-vous que les morts n'apprécient pas le jubilé, population mondiale, prenez bien garde à vous, sous peine de voir votre liberté, le crâne rasé, à genoux. Le savoir est une arme d'instruction massive. Y'a pas que les photos de charme. L'intro, mission raciste, nettoyer l'argent sale. Les petits sachets de lessive. Y'a le savoir qui est une arme, qu'à son mot d'emploi dans les livres. Le savoir est une arme.
Ces dispositifs, ça me permet juste de légitimer le fait d'élargir et d'augmenter les appareils répressifs et les appareils policiers qui surgissent et se multiplient dans toutes nos sphères quotidiennes et dans l'espace urbain, jusqu'à ce que les citoyens
s'y accoutument de plus en plus. Et rien de tel que une crise politique et sanitaire ou économique pour les mettre en place, parce que là, du coup, ça nous semble normal qu'il y ait autant de policiers, de militaires avec le plan Vigipirate déployé et les mesures sanitaires. On y est habitué de plus en plus depuis 2015, sachant que tous ces appareils, c'est à la fois une manière pour l'État de quadriller la population, de ratisser large, prétexte de cibler qu'une population, en fait, c'est tout le monde qui est fiché, c'est tout le monde qui est observé et dont les comportements sont évalués. Et ça, ça nourrit surtout les gros lobbies de la sécurité industrielle, ce que montrait Mathieu Rigouste dans son livre « La domination policière ». Et c'est un des principales industries capitalistes qui fait le plus de profit à l'heure actuelle et qui permet le plus d'expansion des marchés. Et donc, il y a vraiment un échange de bons procédés, une alliance, en fait, entre ces lobbies économiques de l'industrie de la sécurité et les politiques qui vont de plus en plus délayer ce truc de force de l'ordre et de sécurité à des entreprises privées, et en échange, il obtient lui un certain contrôle et tout un tas de profits, parce que c'est les mêmes, c'est la même niche en fait d'économistes et de politiques. Et toujours dans cette même veine actuellement, quelque chose qui est très alarmant, c'est la loi de sécurité globale qui est en train de se mettre en place, qui cherche à interdire l'usage des images de violences policières, soi-disant...
sous couvert de crainte de haine, de diffusion de la haine.
Ouais, envers les policiers ou les militaires. Et donc ça, c'est très très alarmant aussi, parce que jusque-là, c'est hyper difficile de faire condamner la police pour des violences policières. Enfin, la plupart des peines ne donnent pas suite. La charge de la preuve est la plupart du temps aux victimes, et c'est difficile à démontrer. Et on l'a vu dans les dernières manifestations et mobilisations, et notamment pendant tout le mouvement des Gilets jaunes, les vidéos prises par les citoyens et les journalistes ont joué un énorme rôle justement pour dénoncer et visibiliser ces violences policières. Et il y a eu notamment l'application Urgence Violence Policière, lancé par le collectif Urgence Notre Police Assassine, de la militante Amel Bentoussi, dont le frère avait été assassiné par les forces policières, et qui consistait justement à permettre aux militants, aux manifestants qui seraient témoins de violences policières, de les filmer, et les images étaient directement mises sur une plateforme. Donc comme ça, s'il y avait une saisie des appareils téléphoniques, les images étaient sauvegardées avec une géolocalisation. Et donc tout ça, ce serait plus possible. De même que de façon générale de filmer les violences policières, donc c'est la porte ouverte à l'arbitraire quand on voit le nombre de violences qui sont commises à chaque fois et qui touchent bien sûr en priorité les personnes notamment précarisées, racisées, etc.
On retrouve du coup dans le documentaire Un pays qui se tient en siège de David Fraissinet, qui est très intéressant, et donc on constate l'importance de pouvoir reléguer les photos, vidéos des violences policières.
La question des violences policières, elle acquiert une centralité dans les quartiers populaires qui ont servi de laboratoire.
Voilà une classe qui se tient sage.
La démocratie, c'est pas le consensus, c'est le dissensus. Nous ne pouvons pas être tous d'accord.
Je sais pas comment le mythe de la police nous protège tient encore quand on a vu justement toutes ces vidéos, mais la députée LREM de la Drôme, Alice Toureau, qui proposait justement cette disposition, déclarait elle-même qu'elle avait été demandée par la police et donc qu'il fallait l'adopter en tant que telle. Donc en gros, c'est la police qui fait la loi. C'est d'ailleurs ce qu'avait dit Darmanin le 17 août dernier. Il avait dit c'est la police, la gendarmerie, les forces de l'ordre qui font la loi dans notre pays. Donc on voyait déjà qu'on était dans un régime de droit où l'exécutif prenait de plus en plus de place sur le législatif. On n'a déjà plus vraiment notre mot à dire dans les lois et les mesures qui sont édictées, mais maintenant on pourra même plus se porter partie civile, etc. Enfin, pour dénoncer ces violences. Donc c'est vraiment une atteinte à la transparence et une atteinte à la liberté de presse aussi, parce que les journalistes sont aussi concernés par cette mesure. Et en parallèle, non content de juste interdire aux manifestants de pouvoir filmer, par contre les policiers, eux, pourraient avoir plus de pouvoir pour filmer et tracer les manifestants et manifestantes, sachant que c'est déjà le cas en fait, il y a les unités mobiles de police ont déjà la possibilité de filmer, à condition que l'usage de ces images ne soient faites qu'à posteriori, quand il y a eu vraiment une altercation ou quelque chose. Normalement, ils n'ont pas le droit d'utiliser pour l'instant ces dispositifs, ces caméras, pour pister par exemple des manifestants et manifestantes tant qu'il n'y a pas eu de flagrant délit.
Mais du coup, là ce que je viens juste de constater à l'instant, c'est qu'il y a une possibilité du port des armes de service en dehors des horaires de service et dans les lieux publics.
En plus de tout ça, quoi.
Ouais, du coup, il y a trois trucs, c'est légaliser la surveillance par drone, déréguler l'utilisation des caméras mobiles portant par les forces de l'ordre, comme tu as dit tout à l'heure, et du coup en plus porter leurs armes de service en dehors des heures de service et dans les lieux publics. Donc, du coup, ils ont tout droit.
Et par rapport à ce truc des drones, justement, oui, légaliser, parce que en fait, là encore, il y avait un vide juridique, enfin, c'était pas vraiment réglementé, mais dans les faits, c'était déjà utilisé. Ils utilisaient déjà les drones pour filmer les manifestations et les utilisaient même lors du dernier confinement, au-dessus, comme par hasard, des quartiers populaires essentiellement, comme à Saint-Denis, où ils filmaient justement les personnes. Et là, c'est l'application de tout un tas d'études comportementales, parce que du coup, les comportements sont passés au crible et on passe dans le préventif. Enfin, là, il n'y a pas d'acte délictueux ou quoi que ce soit. Ils interprètent les comportements des personnes qui sont fichées, qui sont tracées, etc. Et ils peuvent s'en prévaloir ensuite pour dire qu'il y avait des attentions terroristes ou de porter atteinte à l'ordre public, etc. Et ils utilisaient également ces drones, donc du coup, pendant le dernier confinement, pour filmer les personnes qui ne respecteraient pas forcément les mesures de confinement, avec même des messages préventifs qui étaient lancés par des haut-parleurs.
Ça, c'est chaud. Enfin, c'est...
C'est dingue. C'est de la science-fiction, ouais. Quoi. C'est...
Mais du coup, en parlant de science-fiction, ça me rappelle au final le film, je sais pas si tu l'as vu, Les Misérables. Et donc, oui. Ça correspond totalement à l'utilisation des drones. Et du coup, au fait que, ils ont la possibilité d'utiliser des drones, mais en même temps, ils ont aussi la possibilité de détruire ce qu'ils ont enregistré. Donc en soi, tout est possible pour eux.
Et tout ça se fait petit à petit en jouant sur la peur des gens et en jouant sur la confusion entre les différents opposants et les différents mouvements contestataires. Donc, on vient quand même de souligner que par rapport à cette loi de sécurité globale, l'ensemble des collectifs militants, etc., se mobilisent. Il y a un appel à manifester mardi 17 novembre, parce que c'est le premier jour où on va commencer à discuter cette loi, et donc il y a un rassemblement en tout cas à Bordeaux, mais je crois que c'est national.
À Paris aussi.
À 18h.
C'est ça.
Ouais. Il y a une pétition notamment qui circule sur internet aussi et qu'on vous invite donc à signer. Tout ça, enfin, c'est fait toujours sous couvert de discréditer toutes les personnes qui vont se mobiliser et crier un peu contre des mesures autoritaires, en jetant le flou sur l'islamo-gauchisme et en faisant vraiment preuve d'un anti-intellectualisme. C'est nous, en tant que personnes opposées à ces mesures, qui sommes taxées de complotistes, etc. Et tous les mots en isme qui permettent un peu de mettre un peu tout ce qu'on veut dedans, de la même manière que les musulmans sont taxés de communautarisme ou de séparatisme. Et on voit tous ces mots qui émergent et qui sont usés et réutilisés dans les médias à foison et qui sont vidés de leur sens premier et qui maintiennent juste un espèce de climat de peur en jouant sur les amalgames qu'on peut faire dans nos esprits. Le terme même de séparatisme, il n'a aucune application normalement pour parler, que ce soit du champ universitaire ou des communautés musulmanes. Le séparatisme, à la base, ça désigne des velléités d'indépendance territoriale de la part de certaines communautés, ce qui n'est absolument pas le cas ni dans le champ universitaire, ni des communautés musulmanes. Mais par contre, c'est habile parce que ça permet de jouer sur le côté performatif. Ça véhicule une idée que du coup, ces communautés-là et ces militants-là sont dans une volonté de se séparer d'une certaine idée de la France ou j'en sais rien, dans un certain refus d'intégration, qui est le fameux mythe d'assimilation à la française que la France nourrit depuis des années, même si elle, à chaque fois elle change le mot, elle n'appelle plus assimilation mais intégration, etc. Et du coup, de toujours stigmatiser ses opposants en disant qu'ils ne s'intègrent pas en fait à cette idée qu'elle se veut. Fait d'elle-même et qui est instrumentalisée par les gouvernements, des valeurs républicaines, etc. Et de la même façon, les discours médiatiques et politiques vont aussi retourner, enfin, des mots de la religion musulmane pour les retourner contre ces communautés. C'est ce que mettait en avant Marwan Mohamed dans l'article du Bondi Blog, en donnant l'exemple, par exemple, du mot « taqiya », qui, dans la religion musulmane, désigne le fait de pouvoir dissimuler sa foi dans des moments de péril extrême pour préserver sa vie, et là, qui est directement amalgamé au fait de dissimuler la préparation d'attentats, alors que, bien entendu, oui, les attentats, que ce soit à Nice ou de Samuel Paty, ont été dissimulés, mais comme tout acte clandestin, enfin, ça n'a rien à voir avec la religion musulmane en tant que telle. Par contre, ça permet de jouer sur un certain imaginaire de l'arabe et du musulman fourbe, etc. Donc ça entretient ce climat raciste de suspicion.
Et parce que du coup, les médias ont utilisé ce terme « taqiya »
Et à chaque fois, ils l'utilisent pour dire que c'est les terroristes qui mettent en place une taqiya, c'est-à-dire une dissimulation, et que ça fait partie, et que c'est inhérent en fait à la religion de vouloir dissimuler des mauvaises fins. Mais en fait, non, la taqiya, c'est juste dissimuler sa foi pour se protéger, en fait.
Donc de un, ils se réapproprient un mot, et de deux, bon, bah, ils continuent toujours dans leur lancée islamophobe, enfin de discours islamophobe.
Et ça, c'est le genre de discours et d'expression et de manœuvre qui était utilisé jusque-là essentiellement par les mouvements d'extrême droite et qu'on associe souvent à un gouvernement qui serait d'extrême droite. C'était ce qui était mis en avant quand on avait trop peur que les Le Pen passent au pouvoir en disant que c'était exactement ce genre d'usage islamophobe qu'ils allaient faire, mais qu'en fait, on n'a pas besoin des Le Pen. Enfin, Macron et les gouvernements néolibéraux s'en débrouillent très bien. On a encore beaucoup de choses à dire sur toutes les nouvelles mesures liberticides qui tombent en ce moment. On réserve donc la fin de nos enregistrements pour un troisième épisode hors série, afin de laisser souffler un peu vos cerveaux épris d'élan contestataire. Dans le dernier épisode, on parlera notamment de la loi LPPR, la loi pour la programmation de la recherche annuelle, et du dernier amendement ahurissant qui vient d'être proposé pour limiter les objets de recherche universitaire aux soi-disant valeurs républicaines. Toujours les mêmes, toujours bien floues et inquiétantes. On fera également un point sur d'autres enjeux du confinement, à qui profite le crime, et plus particulièrement, à qui profitent toutes les données qu'on est incité à démultiplier. En attendant, prenez soin de vous, tout en restant alerte. N'écoutez pas trop BFM, et puis, à très vite, sur Abra le corps.
Puisqu'ils ont tué son petit frère, contre le système à mêle part en guerre. Le flic prétend la légitime défense, n'exprime aucun regret, fait même preuve d'arrogance. Les médias répandent la version policière. En France, personne ne pleure sur le sort d'un gangster. Ses parents vivent dans la peur, mais Amel ne lâche rien. Et elle finit par trouver des témoins. Malgré les faits et les preuves amassées, le flic est acquitté au premier procès. Choquant. Même le procureur fait appel, une balle dans le dos, ça ne peut être accidentel.
Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre.
La santé, c'est un esprit sain dans un corps sain.
Abra le corps.